La Semaine Sainte dans son histoire espagnole, voici une conférence de l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne, Escar et Oloron, conférence enregistrée en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne le 22 mars 2023. La Semaine Sainte dans son histoire espagnole, l'abbé Philippe Beitia.
Monsieur le consul, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, je suis heureux d'intervenir dans cette cathédrale à l'instigation de l'abbé Patxi Esponde pour parler de la Semaine Sainte espagnole, bon, que l'on connaît soit parce qu'on y a été à tel ou tel endroit ou à Séville, soit parce qu'on en a vu des photos, soit parce qu'on en a entendu parler. Mais avant que d'évoquer la Semaine Sainte, bon, je prendrai quelques passos de celle de Séville. Bon, on ne peut pas tout faire. J'aimerais quand même bien évoquer un peu ce qu'on appelle la question des images. Dans le catholicisme, on dit image, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être ce que nous avons l'habitude d'appeler image, quelque chose, vous savez, une reproduction sur du papier ou sur une photo. Donc, quand je dirais image, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Et donc, la question qui se pose, c'est un peu la suivante, mais voilà. Est-ce que c'est légitime d'avoir des images pour le culte? Est-ce que c'est légitime? On va voir un peu les discussions, rapidement, bien sûr, les discussions qu'il y a eu dans l'Église sur cette question, avec des avis très opposés. Et puis, je ne sais pas, si on regarde une Semaine Sainte, bon, on a une procession, ça veut dire qu'on transporte des images, des statues. Ben, quel en est un peu le sens? Et aussi voir un peu ce que l'Église fait, entre guillemets, de ces images. Bon. Quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les commandements, Dieu dit à Israël, par le truchement de Moïse, « Tu ne feras pas d'image taillée. » Donc, pas de peinture, pas de sculpture, rien de tout cela. Pourquoi? Parce que Israël a cette spécificité dans l'Orient des années 1200, 1000 avant Jésus-Christ, d'être un peuple monothéiste. Il n'a qu'un seul Dieu. Et toutes les nations environnantes ont plusieurs dieux, ont des idoles. Et donc, Israël est en même temps convaincu de la grandeur de Dieu. C'est une grandeur qui est telle qu'on ne peut pas le représenter. Et par ailleurs, eh bien, on voit un danger si on représentait Dieu, de prendre les dieux voisins. C'est une tentation à laquelle succomberait Israël lors de son histoire, de prendre les dieux voisins et puis d'en faire soit son Dieu, soit d'adopter un certain polythéisme. Hein. Alors vous pensez un peu à l'épisode du veau d'or dans la traversée du désert. Ben voilà, le prêtre Aaron fait un veau d'or pour que le peuple puisse se représenter à Dieu, et Moïse fait détruire tout cela. Bon. D'une part. D'autre part, ben voilà, dans la version dans la version grecque de la Bible, qu'on appelle la Septante. La Bible est écrite en hébreu, quelques parties en araméen, mais il y a eu des juifs qui ont émigré en Égypte. L'anglais de l'époque, si j'ose dire, c'est le grec, donc ils vont traduire la Bible. Mais le texte n'est pas exactement le même que celui de la Bible en hébreu. Et je crois que c'est au psaume 95 où, dans cette version grecque, on peut lire « Les idoles des nations sont des démons ». Bien entendu, on n'a pas envie, dans cette perspective, avec le culte des idoles, d'entrer en communication avec les démons. Donc ça, c'est Israël. Bon. Moyennant quoi, au début, bien, le christianisme va avoir un peu cette compréhension des choses. Bon, vous savez que la société devient chrétienne à partir de 313 avec l'empereur Constantin, que dans les années 391, sous l'empereur Théodose, le christianisme devient religion d'État. Alors, au IVe siècle, dans ces années 300, l'art n'a qu'une place subalterne durant ces trois premiers siècles dans la préoccupation des chrétiens. On est un peu encore dans la perspective de l'Ancien Testament. Ces premiers chrétiens sont très peu favorables aux représentations plastiques de la divinité. Ils se souviennent que les prophètes, la religion que célèbrent les prophètes, est une religion sans image, à la fois monothéiste et spiritualiste. Donc, l'Église primitive va hériter du judaïsme le mépris et la peur des idoles. À telle enseigne que, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il est question à un moment donné de Saint Paul à Athènes. Bon, Saint Paul va aller à Athènes, et nous dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, il nous dit ceci: « Pendant que Paul attendait à Athènes ses disciples, il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. » Il voit toutes les idoles grecques, bien sûr. Et quand il va s'adresser aux Athéniens, entre autres choses, il va leur dire: si nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Et les premiers auteurs chrétiens vont développer ce thème. On ne peut pas représenter Dieu sous forme humaine. Mais voilà, quand la société va devenir chrétienne, quand l'État va devenir chrétien, tous ces braves gens qui sont rentrés dans l'Église, ils ont connu auparavant le culte des idoles latines ou grecques. Et ils étaient donc familiarisés avec les statues, les représentations des dieux qui peuplaient les cités. Et donc, on ne va pas pouvoir rejeter tout cela comme ça. Tout ça va évoluer petit à petit. Si vous allez à Rome, si vous visitez des catacombes, dans un premier temps, vous avez des représentations de motifs décoratifs, de vignes, de petits génies, des saisons, des colombes, des paons, et qui sont bien sûr étroitement liés à la technique païenne. Au second siècle, dans les années 100, on va représenter des scènes bibliques. Les trois jeunes gens qui sont dans la fournaise, ou Moïse qui frappe le rocher, ou Noé son arche, ou Jonas et sa baleine. Bien entendu, quand on les représente, à l'époque on connaît bien mieux la Bible qu'aujourd'hui, et ces peintures-là portent aussi un témoignage de la foi des chrétiens. Mais c'est un art simple. Et donc, quand la société et l'État vont devenir chrétiens, bien, il va y avoir entente entre l'Église et l'Empire roumain et une ère nouvelle pour l'art chrétien. Donc, à partir de 313, on va créer beaucoup d'édifices religieux, on va construire, hein, puisque des foules entières adhèrent au christianisme, soit par conviction, soit par intérêt, on suit le chef. Et donc, on va décorer les surfaces de ces églises, non seulement pour le plaisir des yeux, mais aussi pour l'enseignement des fidèles. Ça va être une espèce de Bible à l'image. Voilà. Donc, on va voir représenter donc des scènes de la Bible, ou bien la gloire du Christ, vêtu de la toge, du pallium, voilà, du vêtement des responsables, des chefs de l'époque, la tête qui est sainte d'un nimbe lumineux, avec un air de commandement et de majesté. Et ces œuvres d'art vont être aussi commentées par des auteurs chrétiens. Donc voilà, à se servir de l'art pour enseigner la foi. Mais il y a encore des préjugés, sur la représentation des réalités divines. Et il va y avoir des conciles qui vont les interdire. Par exemple, le concile d'Elvire en Espagne, Illiberis. Illiberis, c'est aujourd'hui un quartier de Grenade. Hein. Bon, donc le concile d'Elvire, c'est vers 305-306, il décide. Il a paru bon de décider qu'il ne doit pas y avoir de peinture dans les églises, de façon que ce qui est adoré ou vénéré ne soit pas dépeint sur les murs. Bon, voilà. Et puis, ben voilà, il va y avoir des gens bien situés, par exemple, l'historien officiel de l'empereur Constantin, qui est un évêque, Zeb, évêque de Césarée, ou la sœur de l'empereur Constantin. Bon, elles sont contre la représentation des images et elles rappellent, ces gens-là rappellent ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Mais il y a quand même des avantages pédagogiques de ces décorations qui vont être tels que ça va contrebalancer les critiques. Bon, ça, première étape. Seconde étape, une situation de crise, ce qu'on appelle la querelle iconoclaste. Le mot iconoclaste, ça veut dire briser des images. Suite, on pense à des influences juives ou islamiques, les empereurs byzantins, Léon III et Constantin V, donc vous voyez, c'est les années 730-787, durant 50 ans, les empereurs vont demander qu'on détruise les images saintes, d'où une véritable crise, avec des destructions, avec des persécutions, avec des révoltes, avec des martyrs, un grand désordre. Et, bien sûr, on va légitimer cela. Alors, vous avez des théories iconoclastes modérées qui disent, bon, d'accord, pour qu'on représente le Christ, les icônes du Christ, mais il faut qu'elles soient placées très haut et que leur vénération en se prosternant soit interdite, donc purement décorative. Mais vous avez des iconoclastes radicaux qui vont condamner toute espèce de représentation sacrée et exiger leur destruction totale. Et donc, on va se baser sur l'Ancien Testament, sur les commandements de Dieu, on va se baser sur ce texte des Actes des Apôtres, on va se baser sur ce que Jésus dit à la Samaritaine, qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et puis, on va dire, mais voilà, en représentant les réalités divines par des images, voilà, vous altérez la foi. Voilà. Il est impossible de représenter Dieu avec des éléments matériels. Même chose pour la Vierge, les saints qui sont auprès de Dieu. Les représenter avec un corps matériel, c'est leur enlever cet honneur. Puisque Jésus est l'image du Père, c'est impossible de le représenter. Si on le représente comme homme, on nie sa divinité. Et chercher à représenter à la fois sa divinité et son humanité, c'est une confusion et un blasphème épouvantable, et c'est le diable qui se met là-dedans. Bon, bien. Bon, 50 ans de grand désordre en Orient. L'impératrice Irène, bon, Irène, c'est 752-803. Bon, si j'ose dire, Irène, c'est un drôle d'oiseau, hein. C'est une femme très pieuse, mais c'est une femme de pouvoir, et elle n'hésitera pas à faire assassiner son fils pour garder le trône. Enfin, voyez le genre. Mais c'est une femme pieuse. Bon, elle unit ces deux choses. Donc, elle va être régente durant la minorité de son fils. Elle va se dire que tout ce bazar, la crise iconoclaste, bon, ça, il faut en sortir. Donc, elle va s'y atteler, elle va d'abord négocier avec le pape, puis elle va purger de la capitale, de Constantinople, un peu, tous les éléments, notamment les éléments militaires qui tenaient ces idées iconoclastes. Bon. Et, c'est une femme politique, elle fait ramener à Constantinople des troupes qui lui sont fidèles, parce que, bon, il y a eu beaucoup de désordres. Donc, un coup d'État n'est pas exclu. Et en mai 787, elle va ordonner aux évêques de l'Empire de se réunir à Nicée pour tenir un concile. C'est le deuxième concile de Nicée. Le premier a proclamé la divinité de Jésus, bon, mais en 325. Et donc, le 24 septembre 787, va s'ouvrir cette assemblée de ce deuxième concile de Nicée. Et il va se pencher sur la question des images. Voilà ce qu'il dit. Nous acceptons les représentations figurées suivant l'antique tradition de nos saints pères. Nous les adorons. Quand on dit adorer, ça veut dire se prosterner, se vénérer. Le mot adorer, c'est synonyme de embrasser. Hein, voilà. Nous les adorons, entre guillemets, d'un culte relatif, parce qu'elles ont été faites au nom du Christ notre Dieu, de Notre-Dame, la Sainte Théotokos, la Sainte Mère de Dieu, des saints anges et de tous les saints. Mais nous réservons pour Dieu seul l'adoration, alors, au sens propre que nous donnons, nous, aujourd'hui, à ce terme, et la foi. Donc, voilà. On va donc dire que ce culte est légitime. Et on va la définition du second concile de Nicée va déclarer que les images peintes ou sculptées peuvent être placées en tout lieu, même sur des objets d'usage courant. Et le concile va insister sur les avantages de ces représentations. Et il va dire ceci, ben voilà, quand on prie devant une image, on est amené à se souvenir des modèles originaux du Christ, de la Vierge, des saints qui sont sur cette image et à leur témoigner donc de la vénération respectueuse sans que ce soit une adoration. Hein, bon. Dans l'Église, vous avez trois aspects du culte. Ce qu'on appelle le culte de l'atrie. L'atreia, c'est l'adoration. C'est le culte qui est rendu à Dieu. Bon, l'adoration, au sens, est l'obéissance et l'amour comme nous le concevons. Et puis, on a ce qu'on appelle le culte de douli, doulos en grec. Ça veut dire le serviteur. Donc, c'est le culte des serviteurs de Dieu, donc des saints. Là, c'est autre chose. On les vénère. Et on essaie de les imiter et on se confie à leur prière. Et bien sûr, parmi ces saints, il y a la Vierge Marie, c'est le culte d'Hyperduli, de la super servante, si on peut dire, celle qui a été le plus la servante de Dieu. Donc voilà, le second concile de Nicée va dire que, ben voilà, comme on le fait pour l'image de la croix, précieuse pour les saints évangiles et pour les autres objets et monuments sacrés, on offrira de l'encens et des lumières en leur honneur, selon la coutume des anciens. Bref, cette assemblée entend condamner tous les écarts qui ont troublé l'Orient depuis 50 ans. Elle entend ne pas donner prise aux critiques qui ont été multipliées par l'iconoclasme. Et elle distingue, comme je vous le disais à l'instant, le culte de l'atrie qui ne peut s'adresser qu'à Dieu et l'hommage d'honneur que l'on rend à la Vierge, hyper du lit, ou au sein du lit, soit à leur représentation. Donc voilà. La représentation du Christ, des saints, des images, puisqu'on a des sens, voilà, la vue, tout ça, bien, elle doit nous amener à l'adoration de Dieu et à la vénération des saints, à nous confier à leurs prières et, bien sûr, à les imiter. Voilà un peu ce qu'il faut. Donc, second moment de crise. Troisième moment de crise, c'est lors du protestantisme, de la crise protestante. Bon, si vous visitez un temple, c'est vide de toute image. Hein, l'image ne joue aucun rôle dans la piété protestante. J'avais visité il y a quelques années la cathédrale de Genève. Ça a été au début une vraie cathédrale catholique. Puis, du temps de Calvin, alors, imaginez un peu la cathédrale de Bayonne en enlevant toutes les représentations, avec peut-être les vitraux, c'est tout. Donc vous avez un splendide édifice, je crois que c'est du gothique, mais, voilà, vide. Hein, bon. Donc voilà, les images pour le protestantisme, bien, on soupçonne que ce sont des idoles dont il faut au mieux se méfier, au pire, qu'il faut détruire ou refuser absolument. Toujours, on en revient au commandement de Dieu. Alors, cette mémoire protestante en France est marquée par une double tradition. Bon, vous savez que pour les protestants, l'important, c'est la lecture de la Bible. Donc, on va lire la Bible et on va insister sur les nombreux récits des prophètes qui sont opposés au culte des idoles, hein, comme Osée, Élie, Jérémie. Et dans la Bible, l'affirmation de l'invisibilité de Dieu est constante, en opposition aux religions païennes qui avaient des dieux visibles. Alors, à la Réforme, tous les protestants ne vont pas être contre les images, mais seulement les calvinistes, ce qu'on appelle l'Église réformée, les réformés. Dans le calvinisme, l'image est soupçonnée d'être l'idole dont il faut se méfier, voire qu'il faut combattre. Alors, là aussi, avec la réforme protestante, en France et ensuite, il va y avoir destruction des images. Les protestants, qu'ils soient persécutés comme en France, ou qu'ils soient en situation de pouvoir comme en Suisse, Genève, c'est une ville protestante sous l'autorité de Calvin. Vous voyez, une espèce de... Ben, qu'on soit donc en situation de persécution ou de pouvoir, bien les protestants vont s'en prendre très violemment aux images culturelles parce que les images, elles symbolisent l'Église catholique, le pape, enfin bref, tout ce que les protestants détestent. Donc, on va les casser pour ça. Ou, on va aussi les casser parce que, à leurs yeux, eh bien, ça manifeste une mauvaise pratique et une mauvaise expression de la foi chrétienne. Par contre, ça, dans le calvinisme. Dans le luthéranisme, Luther est un ancien prêtre. Et Luther est plutôt favorable aux images, Si vous visitez des églises luthériennes du côté de l'Alsace, notamment, vous verrez qu'elles sont ornées. Alors, Luther va condamner toute dévotion aux images, mais il les utilise pour la transmission de la foi. Ceci dit, les protestants vont se servir des images, des gravures, vous pensez à Cranach, vous pensez à Dürer, pour illustrer leur thèse, ou parfois, vous avez d'horribles gravures contre le pape, le ridiculisant ou ce genre de choses. Bien, parce qu'on est à l'époque de l'imprimerie et on se rend compte, d'envoyer le protestantisme est un peu ambigu sur cette question-là. Et aujourd'hui, bien, c'est un peu une... j'ose pas dire une tendance inverse, mais un changement, parce qu'aujourd'hui, bien, voilà, dans une civilisation de l'image, ben, les protestants se disent que l'image est quelque chose de nécessaire et que ce qu'ils considéraient être autrefois une idole devient maintenant un outil efficace pour transmettre la foi ou pour appréhender de manière ludique et artistique les textes bibliques. Donc vous voyez que parfois il y a des mouvements. Bon, et puis aujourd'hui bien sûr on considère que faire appel à l'image, c'est prendre au sérieux notre imagination, le corps, les symboles, les émotions, et on n'est pas qu'un cerveau. Et puis, quand on regarde la Bible, on voit qu'elle est constituée de textes où foisonnent des images, les récits, les paraboles, les symboles, quand Jésus nous dit que je suis la vigne et vous êtes les sarments, les actes prophétiques du Christ, etc. Bon, donc voilà. Alors, le Concile de Trente va réagir contre le protestantisme sur ce point. Ça va nous permettre ensuite d'aller vers la Semaine Sainte espagnole. Il va réagir doctrinalement dans sa session 25. Eh bien, le Concile va dire que on doit avoir et garder surtout dans les églises les images du Christ, de la Vierge Marie, Mère de Dieu et des autres saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Non parce que l'on croit qu'il y en elles quelques divinités, l'image, la statue, c'est pas quelque chose de magique, ou quelques vertus justifiant leur culte, ou parce qu'on doit leur demander quelque chose, ou mettre sa confiance dans des images comme le faisaient autrefois les païens, mais parce que l'honneur qui leur est rendu renvoie aux modèles originaux que ces images représentent. Donc voilà, vous retrouvez ce qu'a enseigné le Second Concile de Nicée. Et bien sûr, bien, le Concile de Trente considère que par la peinture, par d'autres moyens semblables, eh bien, on peut représenter les mystères de notre rédemption, les épisodes de la Bible. On pensait aux vitraux de notre cathédrale, par exemple, des épisodes bibliques. Bon, voilà. Donc voilà ce que nous dit le Concile de Trente. Mais le Concile de Trente sait qu'il y a eu des abus et donc qui demande de les proscrire. Et aussi de ne pas faire d'images inhabituelles. Chose un peu originale. Ou... Donc, voilà. Et dernière intervention concernant les images, c'est par le pape Benoît XIV en 1745. C'est un très grand pape du XVIIIe. Il entre en contact avec des représentants d'autres religions et des monarques hostiles à la sienne. Il va écrire au Dalai Lama, il va avoir contact avec le roi de Prusse, Frédéric II, qui est connu pour son anticléricalisme, et de l'amitié avec Voltaire, rien moins. Bon, et du temps du pape Benoît XIV, ben voilà, il y a une religieuse allemande, il y a une vision du Saint-Esprit sous la forme d'un jeune homme. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on va consulter Rome. Et donc, voilà, Benoît XIV va, par un document qui s'appelle Sollicitudini Nostrae, va indiquer un peu les critères pour représenter Dieu et la Trinité. Donc, les catholiques réaffirment le bien fondé des images dans une perspective d'éducation, mais aussi au nom de l'incarnation du Christ. Si Dieu s'est incarné, s'est fait homme, ça veut dire qu'on peut le représenter. Et il va y avoir ce qu'on appelle le baroque. L'art baroque va utiliser des représentations artistiques et picturales pour rendre visible la grandeur de Dieu. Et le baroque va faire appel au sens, à la vue notamment. Il va s'employer à éblouir pour séduire et persuader. Les images ont pour tâche de surprendre, de ravir, de frapper l'imagination plus que les esprits. Rien n'est trop grand, ni trop beau, ni trop riche pour persuader les âmes de la majesté de la religion catholique. Voilà. Tout ce qui est le plus beau pour Dieu, c'est un peu ça. Donc, ben voilà, les artistes baroques vont faire un tas de peintures, de sculptures, tout ça, notamment en lien avec les jésuites, la compagnie de Jésus. Si on va en Espagne, monsieur le consul, on est témoin, voilà, vous avez du baroque, voilà, orné avec l'or des Indes de l'époque. Si vous allez à Prague, en Tchéquie, alors, c'est aussi une capitale du baroque. Vous entrez dans les églises. Voilà. Bien. Donc, par l'art, on essaie de reconstruire la relation de proximité qui unit Dieu et les hommes, qui unissait Dieu et les hommes avant la réforme protestante. Et donc, les artistes vont être invités à privilégier les images des saints et de la Vierge Marie, dont le culte a été condamné comme superstitieux par les protestants, mais réaffirmé par la papauté. Et l'art est ainsi encouragé. Bon, vous pensez à Michel-Ange, vous pensez à Raphaël, enfin, voilà, et combien d'autres. Alors, venons-en maintenant au passos de la Semaine Sainte. Alors, notons tout d'abord qu'à partir du Moyen-Âge va se développer dans le peuple chrétien une tendresse pour l'humanité de Jésus et pour les mystères de sa vie. Voilà, on va avoir une tendresse pour Jésus enfant, pour Jésus souffrant dans sa passion et dans sa mort. Et vous trouvez cette tendresse exprimée notamment dans les écrits de Saint Bernard. De même, la même attitude spirituelle de tendresse va concerner la Vierge Marie au pied de la croix. C'est ce que porte la prose, l'hymne Stabat Mater. Elle est du XIIIe siècle. C'est une méditation sur la souffrance de Marie lors de la crucifixion du Christ. Bon, je vous en lis quelques strophes, elle est longue. « Debout, la mère des douleurs près de la croix était en pleurs quand son fils pendait au bois. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. » Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils? Voilà, la tendresse pour la mère de Dieu. Et donc, ça explique les passos dont nous allons parler maintenant. Ben, tout d'abord, tout près de chez nous, Fontarabie, on agit bien. Si vous allez à Fontarabie le vendredi saint, je crois que la célébration est à 17h. Alors, si vous y allez, allez-y à l'avance. Hein. Au moins une demi-heure à l'avance. Parce que l'église est pleine, et si vous voulez avoir une place assise, donc voilà, allez-y à l'avance. Donc il y a la célébration liturgique, comme dans toutes les autres églises, en espagnol, en castillan et en basque, avec un grand Christ, voilà, crucifié. Et à l'issue de la célébration, mais ce Christ est un Christ articulé, on va le descendre. On va le descendre de la croix. Et il va y avoir ce qu'ils appellent la procession del silencio. Ça dure depuis 400 ans. C'est quelque chose quand même. La population y participe massivement. Alors, elle est composée, je n'ai pas pu avoir de photos, ils n'en ont pas tiré, et les choses sont rangées, donc voilà. Elle est composée de 10 passos et a lieu dans le plus grand silence. Elle va parcourir les rues dallées de la vieille ville, des soldats romains l'accompagnent, ainsi que les 12 apôtres et 2 files d'hommes portant de gros cierges. Ferme la procession le clergé, précédé de l'harmonie municipale qui joue la marche funèbre de Chopin. Donc la procession suit l'ordre suivant. La croix de procession entourée de cierges. Puis, le passo de l'Oración del Huerto, la prière de Jésus au jardin des Oliviers. Et ce passo est accompagné des apôtres, vêtus de toges et de tuniques et portant chacun les symboles qui les identifient. Les clés pour Saint-Pierre, la croix de Saint-André pour l'apôtre du même nom, le bourdon de pèlerin pour Saint-Jacques le Majeur, Saint-Jacques de Compostelle, le calice pour Saint-Jean, une équerre ou une pique pour Saint-Thomas, un livre pour Saint-Jacques le mineur, une pique pour Saint-Matthieu, une scie pour Saint-Simon, une palme pour Saint-Jude, une hache pour Saint-Matthias, un livre et une lame de couteau pour Saint-Barthélemy, une croix pour Saint-Philippe. Ensuite, vous avez le passo de Jésus attaché à la colonne, toujours avec une escouade de soldats. Le passo de Sainte Véronique. La tradition nous dit que, voilà, sur le chemin de la croix, une femme est arrivée avec un linge, et prise de pitié pour ce condamné, elle a voulu lui laver le visage, en quelque sorte. Et elle a mis le linge, et sur le linge est restée inscrite, donc, la face du Christ. Et donc, on la représente tenant ce linge. Le Christ crucifié avec une escouade de Romains, le passo de Sainte-Marie-Madeleine, voilà, qui est au pied de la croix, de Saint-Jean, aussi au pied de la croix, et le passo du Christ gisant ou du sépulcre avec un groupe de Romains. On dirait que c'est un enterrement. Hein. Vous avez le Christ dans un cercueil de cristal et le clergé tout de noir vêtu, le prêtre en chape avec un diacre et un sous-diacre en de noir vêtu. Et le passo de la Dolorosa ou de la Bichrène de la Soledad, de la Vierge des Douleurs avec un groupe de Romains. Mais ça ne s'arrête pas là. Après avoir fait le tour de la vieille ville, la procession revient à l'église paroissiale pour procéder à l'enterrement du Christ. Avec le cantique basque « Sutik gurutzeondoan », hein, qui se traduit « Tous debout près de la croix », se terminent les cérémonies du vendredi saint. Et le dimanche de Pâques, à l'église paroissiale, où se presse là aussi une grande foule, alors que les apôtres sont de part et d'autre de l'autel, le groupe de Romains, censé garder le tombeau du Christ, fait son entrée dans l'église. Le prêtre annonce la résurrection du Christ. Les Romains tombent comme foudroyés à terre. Les cloches sonnent, des pétarades donc retentissent, tandis que le centurion, dans un dernier effort, se lève et veut réanimer ses troupes. Mais il tombe définitivement et l'assemblée chante un cantique à Jésus ressuscité. Les Romains se lèvent et a lieu le Thiopaja, ou rencontre entre la Vierge et le Saint-Sacrement devant le sépulcre du Christ. Et donc les Romains vont abandonner l'église avec les casques mis à l'envers et la pointe de la lance dirigée vers le bas, abasourdie par la résurrection de Jésus. Donc voilà les deux aspects, la passion le vendredi saint et la résurrection à travers ce petit théâtre sacré avant la messe de Pâques. Mais venons-en maintenant à la Semana Santa de Séville, dont les passos sont inspirés par l'art baroque, soit qu'ils soient de l'époque baroque, soit que vous avez des passos plus récents, mais sont du même style, hein, si je puis dire. Alors, l'origine des processions de la Semaine Sainte de Séville remonte à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. L'archevêque de l'époque, le cardinal Fernando Niño de Guevara, décrète en 1604 que les confréries viennent à la cathédrale pour une station de pénitence. Et donc ça va commencer ce que les Espagnols appellent le Viernes de Dolores, c'est-à-dire ce vendredi qui arrive, le vendredi avant, ou plutôt, ou l'autre je crois, vendredi avant le dimanche des Rameaux, et ça va s'achever une semaine plus tard, le dimanche de Pâques, pour la commémoration de la résurrection du Christ. Durant ces 7 jours dédiés à la passion du Christ, 60 confréries, des hermandades, des cofradías, sortent en procession pour se rendre à la cathédrale, conclure leur station de pénitence avant de revenir à leur point de départ. Or, chacune de ces congrégations conduit lors de son long cheminement ses passos, dont des espèces d'autels portés à dos d'homme, richement décorés et qui servent de support à des groupes sculptés en bois représentant les scènes de la Passion. Confréries, ce sont des regroupements de fidèles laïcs. Bon, chacun a une église, un peu comme un siège. Cette église abrite les effigies ou les reliques du Christ, de la Vierge ou d'un saint auxquels les membres manifestent leur profond attachement. Les confréries sont rassemblées autour des idéaux chrétiens, de formation, de culte, de charité, de la société à laquelle ils appartiennent, et ils se consacrent toute l'année à diverses œuvres de bienfaisance et au culte catholique. Et la Semaine Sainte constitue pour eux le point d'orgue de leur année de foi, l'occasion de faire pénitence en cette fin de carême et à l'approche de la célébration de la résurrection de Jésus. Donc voilà, vous voyez le passos, là, avec la confrérie, puis vous voyez des gens, vous savez, cagoulés. Un jeune se demandait si c'était le Ku Klux Klan. Non, bien sûr. Voilà, c'est ce qui reste des anciens pénitents. Voilà. Les anciens pénitents, des gens qui avaient dû faire quelques fredaines, voilà, dans le passé, ben, voilà, faisaient cette espèce de marche pénitentielle, pieds nus, peut-être avec un cilice ou ce genre de choses. Mais quand même, il fallait sauvegarder l'identité. On ne pouvait pas trop savoir, d'une part parce que ça aurait fait mauvais effet, d'autre part par humilité aussi. Les deux choses se sont... Donc voilà. Donc on va... Donc vous les voyez, donc habillés, tenant des cierges, bien sûr. Alors, on va s'attacher uniquement, parce que c'est tous les jours qu'il y a ce genre de procession, donc avec de multiples passos, on va s'attacher à ce qu'ils appellent à Séville la Madrugada, c'est-à-dire la nuit du jeudi au vendredi saint. C'est la nuit la plus belle de Séville, avec ses 6 confréries pleines de contrastes. Alors, la Hejmantad, si tu peux, voilà, je vais faire passer une feuille du passeau représenté ici comme ça, puis vous la faites circuler. Voilà. La Hejmantad del Silencio sortira avec Jesús Nazareno portant la croix. Voilà, il est de style baroque, doré, illuminé par 4 lanternes en argent du XVIIe siècle, entouré d'anges portant des cierges élaborés en 1726, avec des espèces de flamèches en or et une tunique brodée d'or. Puis, vous aurez comme passo le Cristo del Gran Poder, statue du XVIIe siècle représentant comme scène Jésus marchant sur le chemin du calvaire en portant sa croix avec les deux mains. La jambe gauche est avancée avec grande amplitude et le genou est fléchi. Le visage a une forme ovale avec des pommettes marquées par de gros sourcils et celle de gauche, la pommette de gauche, est traversée par une épine de la couronne d'épines. Puis vous aurez le passo du Cristo de la Sentencia. Voilà, Jésus condamné, Jésus traduit devant Pilate. Là, c'est une statue habillée, réalisée en 1654 par Felipe de Mojales. Et bien sûr, la Macarena. La Macarena, sûrement, voilà, le petit sanctuaire, si vous allez à Séville, le petit sanctuaire de la Macarena se trouve tout à fait à l'extérieur, près de murailles. Bon. C'est une icône, une image anonyme de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. Auréolée d'or et d'argent, elle verse 5 larmes de diamants. C'est la plus vénérée à Séville. Quand j'y étais, c'était durant la période d'été, il y avait un tas de mariages, en peu de temps, il y a eu un tas de mariages à la Macarena. C'est la patronne des Torrejos. Bon, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, lors de la Seconde République espagnole, dans les années 31-32, il y a eu des troubles et on a incendié des églises et des couvents. Et donc, on s'est dit, mais si on arrive d'un sanctuaire de la Macarena, s'est dit le sacristain, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a pris la Macarena, il l'a cachée dans sa maison, il l'a d'abord mise dans un lit en mettant un drap dessus, pour donner à l'impression, si quelque incendiaire visitait la maison du sacristain, qu'il y avait une personne qui dormait. Et puis, pour plus de sécurité, il l'a mise dans la tombe d'un Torrejo. Voilà, on a gardé un temps, voilà. Là, personne n'irait voir. Vous avez ce Santissimo Cristo del Calvario, une représentation du Christ mort sur la croix, sculpté en 1612 par Francisco de Ocampo. Cristo de las tres caídas, le Christ des trois chutes. Une sculpture de Marcos Cabrera du premier tiers du XVIIe siècle. C'est l'une des statues les plus anciennes qui processionne lors de la Semaine Sainte de Séville. Ici, Nuestra Señora de la Esperanza, Notre-Dame de l'Espérance, Là aussi, elle est vénérée dans le quartier de Triana de Séville. Voilà. Il y a un culte très fervent pour la Macarena, mais il y a aussi un culte très fervent pour Notre-Dame de l'Espérance. Surtout dans ce quartier de Triana de Séville. Bon, mais voilà. Jusqu'au Concile, jusqu'aux années 70, quand vous alliez à ce type de procession, ce n'était que des représentations d'épisodes de la Passion. Et ça préoccupait quand même le cardinal Bueno y Mongeal, archevêque de Séville depuis 1956, dans les années encore 70. On s'est dit, ne parler que de la Passion du Christ, des souffrances du Christ, de la croix du Christ, sans parler de sa résurrection, il y a quelque chose qui manque. Et donc, bon, bien sûr, au XVIIe siècle, il y avait eu des processions en l'honneur du Christ ressuscité, le dimanche de Pâques, mais en 1972, le cardinal Bueno y Mongeal, cardinal archevêque de Séville, va approuver le règlement d'une Hermandad de Gloria, donc d'une confrérie consacrée à la résurrection de Jésus. Et il va faire une commande en 1973 d'une statue du Christ ressuscité. Vous voyez que c'est l'inspiration baroque, pourtant c'est du pur XXe siècle. Par Francisco Buisa Fernandez. Bon, on est toujours frappé, mettons, parfois par la quasi-nudité du Christ, soit quand il est enfant, ou parfois la nudité, quand il est dans les bras de sa mère, d'accord, soit ici. Pourquoi ? Alors bon, il peut y avoir l'aspect esthétique pour le sculpteur, mais parce que quand vous ouvrez la Bible, dans le livre de la Genèse, avant le péché, le premier couple est nu. Et donc, la nudité est le symbole de l'amitié avec Dieu. Donc, quand on représente l'enfant Jésus tout nu ou à peine vêtu dans la peinture, ou ce Christ ressuscité, comme ça, et bien souvent ressuscité, c'est le symbolisme, d'une part, que Jésus est celui, puisqu'il est le Fils de Dieu, dans la totale amitié avec son Père, même chose pour le Christ, voyez, c'est ce symbolisme-là. Alors, bien sûr que ça peut être inspiré, ça a inspiré, bien sûr, les artistes, mais vous ayez, quand vous voyez ces représentations, c'est ça. Voilà, c'est que la sainteté originelle qui avait été perdue par le péché est récupérée par le Christ. Hein, ouais, c'est un peu ça. Bon, 1975, bon, le même artiste fera donc une statue de l'ange assis près du sépulcre. Et toutes deux seront portées en procession. De même, ben, les vierges qu'on a vues, me dirait, elles sont bien habillées, tout ça. C'est quand même des Dolorosas, des Notre-Dame des douleurs. Et là aussi, le cardinal Bueno y Mongeal était un peu préoccupé par ça. Marie, c'est bien sûr la Vierge au pied de la croix, mais c'est aussi la Vierge qui partage la joie de la résurrection de son fils. Et la tradition veut, l'Évangile ne dit pas, que le Christ ressuscité, la première apparition, ce soit à sa mère. Et dans certaines villes d'Espagne, parfois, ben voilà, vous avez le matin du jour de Pâques, deux statues qui courent, la statue de la Vierge qui court vers la statue du Christ ressuscité. Ça se faisait à Fontarabie, maintenant, c'est plus théologique, avec la Vierge qui rencontre Saint-Sacrement en présence du ressuscité de l'Église, mais il me semble l'avoir vu dans mon enfance. Donc, il va y avoir... On va transformer Nuestra Señora de la Ojoja. Voilà. Notre-Dame de l'Aurore. Voilà, pour indiquer cela. Là aussi, c'est une statue de 1978. Et on a voulu ne pas montrer ou évoquer uniquement Marie au pied de la croix. En Notre-Dame de l'Aurore, on reconnaît celle qui, courageuse au pied de la croix, a contemplé à l'avance, dans la foi, le jour de la lumière et de la vie. Et voilà, Marie au pied de la croix, Saint-Jean nous dit qu'elle se tient debout. Ce n'est pas uniquement qu'elle est debout physiquement, elle est debout spirituellement, elle est debout moralement. Elle est l'unique qui a gardé la foi en la résurrection de son fils, alors que tout semblait la contredire. Hein, voyez, donc voilà. Et donc, elle a contemplé à l'avance, dans la foi, le jour de la lumière et de la vie. Et après que Jésus ait été mis au tombeau, Marie est la seule qui a maintenu vive la flamme de sa foi, se préparant ainsi à accueillir l'annonce joyeuse et surprenante de la résurrection. Et la tradition de l'Église nous dit, ben voilà, que le Christ ressuscité, sa première manifestation, c'est donc à sa mère. Donc voilà un peu, ce n'est qu'un aperçu, hein. Ce n'est qu'un aperçu, il y aurait bien sûr plus à dire.
La Semaine Sainte dans son histoire espagnole, vous venez de suivre une conférence de l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne, Escar et Oloron, une conférence enregistrée en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne le 22 mars 2023.